Discuter, débattre, s'exprimer, communiquer, les Français aimeraient-ils la parole?
Les Français adorent parler, mais ce dont les Français sont peut-être pas très conscients, c'est qu'ils s'expriment avec des codes, ils ont des réflexes qui sont mystérieux pour les étrangers. La parole, c'est une passion française.
Manuel de survie pour venir en France et comprendre les Parisiens, surtout le nouveau livre de Julie Barlow et Jean-Benoît Dado essaye de décoder l'usage de la parole tel que pratiqué par mes compatriotes avec ses codes, ses tabous et ses mystères. Bonjour Julie Barlow.
Bonjour.
C'est un objet de fascination ou de surprise, notre rapport, nous Français, à la langue, pour vous qui vivez au Québec?
Mais je vais vous dire, l'idée du livre est venue, en fait, moins d'une passion, le nôtre pour la langue, évidemment, on est très intéressé par le sujet, mais en fait, c'est les obstacles à surmonter dans la façon de, dans la communication avec les Français. Et comme étranger, même un étranger comme moi, d'origine anglophone, qui parle couramment le français, je me rendais compte, après 10 ans à côtoyer les Français, qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas encore de la manière qui s'exprime, qui communique. D'abord, des codes et des réflexes que j'étais pas capable de surmonter pour avoir une belle échange avec les Français.
Donc, c'est pour cette raison que vous avez essayé de comprendre pourquoi ça bloquait, en fait.
Pourquoi ça bloquait, exactement. Et le premier chapitre, en fait, est sur quelque chose de très simple. Les Français vraiment sont pas conscients à quel point le mot bonjour est important pour entamer une conversation sur n'importe quoi, avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation.
D'ailleurs, on s'est dit bonjour au tout début de l'émission.
On dit bonjour parce qu'on peut pas parler sans dire bonjour. Et c'est ça que, comme étranger, surtout nord-américaine, mais je pense que c'est vrai probablement pour les Britanniques aussi, on n'a pas besoin, nous, de signaler qu'on veut commencer une conversation dans notre langue. On commence à parler directement. Souvent, on va dire « excusez-moi, ta-ta-ta », on va commencer comme ça. Mais si on fait ça avec un Français, on est devant
un mur,
face là, en fait, ça marche pas. On a souvent eu des moments où moi, j'ai été peut-être nerveuse ou en fait pressée, où j'approche quelqu'un dans une situation, mettons, dans un magasin, on raconte souvent ce genre d'anecdote dans le livre, où on dit « excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'aider ?» Puis, je dis « zéro aide, zéro conversation, zéro communication ». Et donc, c'est pour ça, il faut absolument dire bonjour et il faut attendre que l'autre reviennent avec le bonjour et ensuite on parle. Le bonjour signifie je suis là.
Et je veux rentrer en contact.
Et je veux rentrer en contact ou je veux vous demander quelque chose ou, intéressant, je rentre dans votre espace. C'est-à-dire, le commerce en France est quand même considéré une sorte d'extension de l'espace privé et il faut signaler qu'on est dans l'espace de quelqu'un. Même dans l'autobus, on est dans l'espace du chauffeur d'autobus. Donc, il faut le bonjour.
Votre nouveau livre, Ainsi parlent les Français, fait suite à Pas si fous ces Français, que vous avez publié il y a une dizaine d'années, un tout petit peu plus.
Ouais.
Vous définissez comme journaliste anthropologue. Alors, il faut quand même dire que c'est un peu limité à Paris, 4e et 5e arrondissement. Vous n'allez pas du tout dans le milieu rural, vous n'allez pas du tout en banlieue. Qu'est-ce qui a changé pour vous en 10 ans en France?
La première fois qu'on a vécu à Paris, on est arrivé à une période où on parlait beaucoup de mondialisation, globalisation, si vous voulez. Et il y avait un sentiment très, très anti-français dans le monde extérieur. Puis les Français eux-mêmes étaient très, très sensibles à ça. Il y avait une vague d'anti-américanisme qui était très fort à l'époque. Et ça, on l'a vu depuis 10 ans, ça a beaucoup changé. On n'entend pas le mot, par exemple, aussi souvent qu'avant, anglo-saxon, pour mettre à l'écart tout ce qui est pas français, en fait. Et moi, j'entends moins ça. L'accent québécois, quand on est arrivé en France en 99-2000, les gens riaient de notre accent québécois. C'était un petit peu méprisant. C'était pas, ils nous appelaient les cousins, mais il y avait toujours un sous-entendu. Enfin, on n'aimait pas la manière qu'on était reçus. Toujours, là, ça a complètement changé. Là, les Français sont ou bien plus ouverts sur le monde. Je pense qu'ils ont toujours été, mais peut-être plus à la recherche de modèles, d'idées, de modèles de société. Et le Québec, en quelque part, représente ça, à mon avis.
Pour qui avez-vous écrit, conçu ce livre ainsi par les Français? Est-ce que c'est pour expliquer aux Nord-Américains, je parlais de manuel de survie, aux Nord-Américains, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent comprendre les Français qu'ils auront face à eux, ces étranges bêtes qu'on appelle Français ou Parisiens? Ou est-ce que c'est pour nous, francophones de France, avec un effet miroir?
Mais la version que vous avez en main, la version ainsi par les Français, qui est la traduction et adaptation de l'original qui était effectivement écrit pour les étrangers. On a publié à New York la première version qui s'appelle The Bonjour Effect. Et l'idée à l'origine, c'était d'expliquer, d'aider les gens qui veulent venir en France à décoder les Français, quoi.
Parce que c'est si compliqué que ça.
C'est plus compliqué que vous pensez.
De sophistication, enfin, quand même.
Non, mais c'est incroyable. Mais d'où je m'en viens à l'adaptation montre aux Français les choses qu'ils soupçonnent pas eux-mêmes, en fait, les obstacles pour les étrangers, mais non seulement ça, des codes. Donc, vous êtes pas très consciente de bonjour en est un. Le no, en fait, cette espèce d'habitude de commencer tout dans le négatif. Ça, c'est difficile à comprendre, puis c'est intéressant pour les Français qui ne se rendent pas compte.
Mais c'est vrai que c'est ce que j'appelle l'effet miroir. C'est-à-dire, tout d'un coup, on se dit, ah oui, finalement, est-ce que le bonjour est aussi important que cela? Et c'est vrai que tout d'un coup, on écoute davantage ce qui se raconte, et souvent, on se dit bonjour avant de faire quoi que ce soit. Pour vous, ça a vraiment été un traumatisme.
Mais c'est un traumatisme quand on arrive, on se sent un peu vulnérable, étranger à Paris. On a besoin de trouver des solutions à des problèmes, trouver des choses dans l'épicerie. J'ai été avec un ami handicapé à un moment donné dans un métro. Il fallait trouver la manière de rentrer le fauteuil roulant dans le métro. C'est vraiment pas évident. On se retrouve en mode un peu panique et là, on oublie de dire bonjour et tout tombe, quoi. Il y a rien qui marche. En fait, c'est ça qui... Mais du moment qu'on se met à dire bonjour de façon systématique et un peu répétitive, tout va bien. En fait, les Français sont très à l'écoute.
Bonjour.
Bonjour.
Merci, au revoir.
Au revoir, merci.
Mademoiselle.
Bonjour, je viens pour l'annonce. Oui, attendez, mettez-vous là sur le côté.
Bonjour, madame.
Je voudrais une baguette, s'il vous plaît.
Avec ceci,
ce sera tout.
80, s'il vous plaît.
Merci, bonne journée.
Merci bien.
Et vous êtes française?
Oui, madame.
Ah oui? Et vous êtes née où?
À Thiers, dans le Puy-de-Dôme, madame.
Ah oui, une Auvergnate.
Eh ben oui,
c'est comme ça, ce que vous voulez. Hein. Paris, c'est ça. Au revoir, bonne journée.
Karine Viard, dont le rôle de la boulangère dans le film de Cédric Clapiche qui s'appelle Paris, je ne sais pas si vous l'avez vu plutôt, Julie Barlow, mais c'est un film extraordinaire et cette scène de Karine Viard est absolument essentielle. Ça fait partie de l'effet miroir. Tout d'un coup, on la voit et on ne peut plus rentrer dans une boulangerie le lendemain sans repenser à ses tics, à ses bonjours, à ses merci. En même temps, ce bonjour, c'est la partie savante de votre livre. Vous dites qu'il a une fonction fatigue.
Fatigue, voilà.
C'est-à-dire que ça permet de rentrer dans la sphère de l'autre. Et alors, j'ai appris en lisant ce livre que chez vous, les Québécois, on ne dit pas salut. Parce que nous, on peut dire bonjour ou salut. Vous, non, il n'y a pas de salut. C'est allô.
C'est allô, c'est salut. Salut pour dire bonjour ou salut pour dire au revoir. Mais la différence principale est que non, on n'a pas besoin de dire salut pour commencer à parler à quelqu'un.
Oui, c'est toujours la même histoire.
Alors, on commence avec un sourire.
Alors, il y a l'expression ralala aussi, soi-disant, ralala. Que nous, Français, on utilise l'expression ralala.
Ouais.
Vous l'avez entendu souvent?
Oui. Pas si souvent que ça. En fait, c'est plus des personnes un peu plus vieux, un peu plus âgées. Chez les jeunes, on dit pas, moi, j'entends pas, oh là là. Mais encore là, ça veut rien dire. C'est une façon d'envoyer le signal qu'on n'est pas content et qu'on est frustré. En fait, c'est un signal. Les fatigues sont des mots, mais qui n'ont pas de sens autre que d'envoyer un signal, en fait. Le bonjour veut pas dire, les anglophones pensent que c'est hello, good day. Mais c'est vraiment les choses dont j'ai parlé tout à l'heure. Je suis ici, j'ai envie de parler, je vous demande la permission de parler.
Pas plus.
C'est déjà beaucoup, voilà.
Alors, il y a la grave question aussi, et ça, je peux comprendre que pour un étranger, ce soit surprenant, c'est le tutoiement ou le vouvoiement.
Ouais.
Ça, c'est un casse-tête. Est-ce que vous y voyez un peu plus clair?
Ouais, le tutoiement et le vouvoiement, pour un étranger qui ne parle pas français, c'est évidemment le casse-tête total. Ils comprennent pas du tout, mais même pour un Québécois, un Nord-Américain comme moi, c'est un peu mystérieux. On vous voit beaucoup plus souvent, beaucoup plus de façon systématique en France. Honnêtement, je trouve ça bien. puis je transporte le vouvoiement, je le ramène au Québec parce que je pense que c'est quand même une habitude qui démontre le respect. Quoi. Donc, c'est ce que je suggère à n'importe quel étranger.
Voilà, vous vous avez un conseil, vous voyez et vous ne pouvez pas vous tromper.
Vous ne pouvez pas vous tromper, exactement.
Finalement, peut-être que la principale différence entre les Nord-Américains et j'inclus les Québécois et les anglophones canadiens ou américains, c'est peut-être la question de l'intimité, ce que vous appelez les bulles, sachant que, par exemple, parler de son travail, c'est quelque chose pour vous absolument évident dans une conversation, ouais. Alors que vous nous dites que c'est très tabou en France.
C'est
ce
assez,
qui est pas faux.
Oui, c'est assez tabou en France. Et là encore, on parle de malentendus courants. Dans notre livre, on suggérait aux étrangers, on avait carrément une liste de sujets difficiles à aborder avec les Français. Et à la base, il faut comprendre la différence entre ce qui est privé en France et ce qui est public. Et donc, évidemment, l'argent, c'est une question qu'on aborde avec des amis. Le salaire, on pose pas ce genre de questions-là à quelqu'un, mais en fait, c'est mal poli. On parle pas, les Nord-Américains vont tout de suite poser la question à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est une manière d'échanger, de trouver des choses en commun. Pour un Français, c'est pas du tout perçu comme ça, et il faut le savoir qu'on en parlera pas. À l'inverse, l'amitié, la famille, ce sont des sujets qu'on aborde facilement en Amérique du Nord. C'est-à-dire avec n'importe qui, on parlera de nos familles. Pour un Français, c'est pas si évident. On n'en parle pas tout de suite. On en parle avec des amis proches.
En même temps, vous expliquez que la scène de couple, où exprimer ses difficultés de couple, c'est pratiquement public en France, alors que c'est quasiment tabou aux États-Unis, mais que c'est bon signe. Si on s'engueule quand on est un couple, dans un groupe ou publiquement, ça veut dire que c'est bon signe.
Ben, ça veut dire que le couple est fort. C'est souvent perçu comme ça en France, tandis qu'en Amérique du Nord, la confrontation, de façon générale, est réservée aux sphères privées. On n'engueule pas quelqu'un en public et on contredit et on ne corrige pas les gens en public, on fait des gens qu'on connaît pas. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre qu'en France, c'était une manière de m'inviter dans une discussion. Je pensais que c'était juste une manière de me repousser, en fait, de corriger mon français ou de me reprendre, en fait, pour quelque chose que j'avais dit.
C'est parce qu'on aime la contradiction.
Exactement. Vous adorez la confrontation et c'est du moment que les étrangers comprennent que c'est un jeu, que c'est un sport, la conversation en France, mais c'est rigolo, on s'amuse, on embarque, mais...
Vous voulez dire qu'on est plus drôle que vous?
Mais pas plus drôle. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pas... Vous aimez l'esprit et la conversation et la confrontation, ça amène ça vous donne l'occasion de démontrer l'esprit, mais nous, on aime l'humour. C'est-à-dire... Et vous faites ça en privé, vous riez pas de vous-même en public. Nous, on a plus tendance à rire un peu de nous-mêmes pour montrer l'humilité, tandis que le français, typiquement, il fait ça en privé.
Elle fait la 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 la.
Michel Polnareff du temps de sa splendeur sur RFI avec Julie Barlow, autrice québécoise qui s'amuse de notre façon à nous français de parler cette langue qui est la nôtre. Alors vous vous moquez un peu, mais en même temps vous reconnaissez que l'expression verbale est érigée comme un art. Un art est quand même aussi une question d'éducation, parce que dans ce livre Ainsi parlent les Français, Julie Barlow, vous pointez l'importance de l'école publique où on enseigne la philosophie au lycée, où on a inventé et imposé la dictée depuis 1840, qui ne sont pas forcément des traits que l'on peut retrouver de l'autre côté de l'Atlantique.
Mais pas de la même manière, en fait. On est arrivé à Paris avec nos filles qui ont été à l'école primaire pendant notre séjour à Paris. Et la première chose dont on me parle des enseignants, c'est leur inquiétude par rapport à la façon qu'elles s'expriment, mes enfants. Donc, c'est vraiment mis de l'avant à l'école, à l'éducation en France. Tout le monde parle et pense aux exposés oraux, elle mémorise la poésie, elle raconte la poésie, elle parle. Et je dirais que en Amérique du Nord, c'est quelque chose qui est considéré peut-être pas aussi essentiel à la réussite dans la vie.
Oui, vous nous trouvez un peu puriste hein, sur cette question de la langue, avec ce distinguo assez intéressant. Vous écrivez que les Français parlent comme ils écrivent,
oui,
quand les Québécois écrivent comme ils parlent.
Oui, mais en fait, c'est peut-être l'influence de l'anglais, le fait de vivre en Amérique du Nord ou dans la culture anglophone. C'est carrément l'inverse, on n'aspire pas à parler de la manière qu'on écrit, même si c'est plus formel l'écriture que, évidemment, la conversation. C'est particulier en France. C'est simplement la manière que les gens... vous admirez la langue, vous voulez préserver votre langue dans sa forme la plus pure possible et... C'est considéré un peu la responsabilité de tout le monde de ne pas gâcher la langue quoi, et de bien parler.
Alors, cette histoire, en fait, elle a vu le jour au XVIIe siècle avec l'invention des salons,
ouais,
où la conversation est érigée au rang des beaux-arts. Et là aussi, vous le racontez dans votre livre. Molière a beaucoup écrit sur ce phénomène des salons avec les précieuses ridicules. Il y a eu de nombreux films aussi, dont Ridicule, justement, de Patrice Lecomte, où gentes dames et gentilhommes organisent des joutes verbales.
Soin, point. Envie, Eucharistie.
Annoncez.
Alexandrin, je comptais en ces lieux voir le roi à l'envie, l'entendre lui parler et m'instruire par ses soins. Mais c'est comme Jésus en son Eucharistie. On le mange, on le boit, mais on ne le voit point.
Quelle merveilleuse vivacité.
À vous, baron.
Conduite, suite, santé, été.
Annoncé.
Octosyllabe. Toujours fidèle à sa conduite, l'abbé, sans nuire à sa santé, peut faire deux mots d'esprit de suite, l'un en hiver, l'autre en été.
Extrait de Ridicule, le film de Patrice Lecomte qui avait été nommé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1996. C'est dire si cet art de la conversation fait partie de l'image de marque de la France. Alors, dans votre livre, Julie Barlow, vous soulignez, je ne sais pas si c'est simplement une question de traduction, mais en tout cas quelque chose qui a trait à la question de la langue, c'est la différence entre faute et mistake.
Oui, les fautes... Je disais tout à l'heure que la responsabilité de l'entretien, la maintenance de la langue française dans sa forme la plus pure est comme la responsabilité de tout le monde en France. Et d'ailleurs, ça dépasse les frontières de la France. C'est une attitude que tous les francophones, à mon avis, partagent. Et la faute, mistake, est simplement erreur. Faute a un côté de responsabilité, en fait.
De culpabilité.
De culpabilité, surtout. Exactement, qui est associée avec l'erreur. Donc, c'est pas étonnant qu'on cherche à tout prix à éviter la faute en France. Et on l'a vu avec nos enfants à l'école, à quel point vous êtes sévère à l'école avec les enfants qui, avec leur langue, vous êtes vraiment sévère.
Et puis, vous dites aussi qu'on ne veut pas reconnaître nos fautes.
Mais
parce que c'est trop grave, si on reconnaissait sa faute, mon Dieu, ce serait trop grave, alors qu'une erreur, c'est toléré.
Oui, exactement. Une erreur, c'est normal. Une faute, c'est effectivement... question de culpabilité.
Donc le français de France est plus sévère.
La relation avec la langue, beaucoup plus sévère qu'au Québec où on est imprégné d'un esprit un peu plus anglo-saxonne, si vous voulez.
Est-ce que vous trouvez que le numérique et les réseaux sociaux ont modifié le rapport à la langue avec ce voyage à 10 ans, 12 ans d'écart? Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé quelque chose?
C'est une bonne question. On n'a pas trop réfléchi à ça dans le livre. Moi, ce qui m'a toujours fasciné avec les Français, en autant que vous avez cette façon un peu rigide mais rigoureuse d'enseigner le français à l'école et on respecte les règles, de l'autre côté, vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité avec la langue en dehors de l'école, peut-être du monde professionnel. Possiblement. Et je pense que dans les réseaux sociaux, on voit vraiment l'éclatement et toute l'imaginaire des Français, toute la créativité autour de la langue avec l'invention de mots. Vous utilisez beaucoup l'anglais. Moi, je trouve ça plutôt rigolo, la façon qu'on intègre l'anglais à la langue. Ça souvent pas le sens du mot original en anglais, mais vous les Français, vous le prenez, vous faites ce que vous voulez avec. En fait, c'est une matière comme une autre. C'est très intéressant, mais je sais que c'est pas l'opinion des puristes.
Alors, dans votre livre, vous parlez de quantité de choses, de la cuisine, de la politique, du tout va mal, de la différence entre les hommes et les femmes, du sexisme, etc.
Ouais,
etc.
Ouais.
On n'a pas tout à fait le temps. Vous ne parlez pas de ponctualité. Les Français sont ponctuels?
Ponctuels? À leur manière. En fait, on n'arrive jamais à l'heure. En fait, nous, comme Québécois, on a tendance à arriver à un souper à l'heure qu'on est invité. Puis les Français, 15, 20 minutes, 30 minutes.
C'est le quart d'heure français.
Voilà, c'est exactement.
Eh bien, en tout cas, nous, sur RFI, nous sommes très, très, très ponctuels. Et je vous annonce que c'est l'heure de la puce dans De Vive Voix.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie Bouteloup.
Bonjour Pascal.
La puce à l'oreille, votre chronique, c'est une expression et c'est...
Ça vous embouche un coin.
Un coin? Un coin comment?
Un coin de table, on ne sait pas. Et bien précisément, c'est Daniel Lacotte que je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui qui va tout nous dire, puisqu'il a récemment fait paraître aux éditions First un nouvel ouvrage intitulé « Métaphore, je vous aime » ou « Le dico des belles images » et qu'il y évoque entre autres cette expression que j'affectionne particulièrement, je dois bien l'avouer. Il y en a d'autres qui ne finissent pas de nous emboucher un coin, et bien ce sont nos apprentis linguistes à l'imagination débordante. Cette semaine, c'est la classe de Delphine Pereira-Souza dans le 17e arrondissement de Paris. C'est parti.
Ça veut dire rester dans un coin et pas bouger.
Bouger un mur parce qu'on veut le bouger parce qu'on n'a pas assez de place.
Ça veut dire que le nez est bouché.
J'en fais qu'une bouchée.
Ça veut dire de s'énerver.
Par exemple, il lui donne une punition et elle lui dit de rester dans un coin et de pas bouger jusqu'à manger.
Ça veut peut-être dire qu'on se cache dans un coin du boucher.
Ça veut dire que... On s'attendait pas à ce que la personne nous dise ça.
Parce que ça nous rend bouche bée. On bouge plus, on n'en revient pas.
Ça veut dire qu'on est jaloux et qu'on se met dans un coin parce que sa maman s'occupe de quelqu'un d'autre et pas de soi.
Des fois, quand il y a des personnes qui sont très très fâchées, on a l'impression qu'il y a de la fumée qui sort de leurs oreilles et c'est bouché.
Alors, Daniel Lacotte, est-ce que vous êtes bouché des oreilles ou alors est-ce que vous êtes dans un petit coin du boucher? Qu'est-ce que vous pensez des propositions?
Moi, bon, c'est formidable déjà. Vous savez, je suis un peu un habitué de votre émission et je trouve ça à chaque fois merveilleux. Parce que c'est pas forcément faux quand elle parle du boucher, ça s'écrit pareil, ce sont vraiment des homophonies. Bon, enfin,
boucher
bref,
un mur.
Voilà, bon.
Et le coin.
Tout le monde va au coin.
Sauf qu'il ne s'agit pas de ce coin. De quel coin s'agit-il?
Alors,
c'est pas le fruit.
Voilà, ce coin, en l'occurrence, ce coin, c'est pas du tout un coin qui est carré, si j'ose dire, ou une équerre. C'est un moule. Hein, on peut dire, qui servait à faire les pièces et les médailles autrefois. Donc c'est vraiment... Un moule rond. Alors voilà, vous avez raison Lucie, il est rond ce moule, et d'où l'analogie possible, le coin étant rond, ce qui est très drôle en soi, hein, le coin étant rond, c'est l'analogie avec la bouche.
Hein, la bouche comme ronde, la bouche comme la bouche ouverte
qui serait ouverte. Et alors ce qui est fabuleux vraiment, c'est qu'un des enfants qui ne parle ni du boucher ni de je sais plus quoi dit on est bouche bée. Donc la bouche ouverte, la bouche en cul de poule aussi, qui veut effectivement dire qu'on est surpris, qu'on est stupéfait, qu'on est en catalepsie.
On est stupéfait au point que ça vous cloue le bec.
Alors ça cloue le bec. Alors ça c'est le contraire un peu.
Alors la bouche bée, on est stupéfait et on garde la bouche ouverte, ouais. Un peu niaisement.
Voilà.
Alors que quand ça nous embouche un coin, et ben ça nous ferme la bouche.
Et ça nous ferme la bouche.
Alors c'était une expression qu'on utilise en général quand on a cloué le bec à son interlocuteur parce qu'on a dit quelque chose de très pertinent.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'interlocuteur ne sait plus quoi dire.
En tout cas, en Allemagne, on retrouve bien cette même idée de clouer le bec.
Ah, probable, oui. Alors là, je sais que vous êtes très forte en la matière. Et à chaque fois que je viens, je me fais piéger parce que vous me dites, et en Allemagne, et en Angleterre.
Et en Angleterre, figurez-vous, c'est un peu plus violent. On reçoit une claque sur la gueule. Alors là,
carrément. Ouais.
En Italie, on reste de plâtre. Je trouve que c'est assez drôle pour les Italiens. On aurait pu rester de marbre, mais non, on reste de plâtre. Oui. Et en République tchèque, on étourdit quelqu'un tant on a un raisonnement pertinent.
Alors, j'ai remarqué aussi que, justement, dans les pays slaves, et ça, je sais pas du tout pourquoi, leurs expressions sont souvent un peu alambiquées. C'est toujours des trucs un peu... Je sais pas pourquoi.
Pantoi stupéfait et époustouflé, vous m'avez cloué le bec, mon cher Daniel, avec votre érudition. Merci d'être venu nous rendre visite dans la puce. La semaine prochaine, nous vous retrouvons pour une autre expression. Et pour les auditeurs qui souhaiteraient vous réécouter, ils peuvent aller sur le site de RFI. Savoir avec un S. Merci beaucoup et
merci, Lucie.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et vous, Pascal, alors, j'espère que je vous en ai bouché un coin.
J'en suis bouche bée. Merci, Lucie. Est-ce que au Québec, Julie Barlow, vous avez une expression équivalente à boucher un coin?
Je dirais, avec mon accent, plein accent, mais là, j'ai mon voyage.
J'ai mon voyage?
J'ai mon voyage.
Ça veut dire quoi?
J'en viens pas. Je suis, je sais pas quoi dire. C'est tellement étonnant. Je ne savais pas ça.
J'ai
mais
mon
là,
voyage.
Mais non, mais il faut mettre le « mais là » avant, pour préparer. Mais là, j'ai mon voyage.
Mais là, j'ai mon voyage. Je vais m'y essayer. Merci beaucoup, Julie Barlow. Votre livre écrit avec Jean-Benoît Nadeau, Ainsi parlent les Français, est édité chez Robert Laffont. Et si on parle d'écriture, je vous rappelle l'existence du prix Jeunes Écritures, actuellement en cours, prix organisé par RFI et l'AUF. Si vous avez entre 18 et 29 ans, vous pouvez nous envoyer une histoire courte. Vous savez tout sur le site rfi.fr ou pje.short-edition.com. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation. Programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin, Olivier Roux à la réalisation. On se retrouve demain.